VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mardi 21 mars 2017 en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, du nouveau aux discussions de Kinshasa, Jean-Marc Kaboun se retire des négociations de la CENCO et avec lui, l'UDPS.
Au Burundi, un colonel de police retrouvé mort hier à Bujumbura.
En Gambie, ouverture hier à Banjul du procès de 9 ex-agents du renseignement accusés du meurtre de l'opposant Solo Sandeng sous l'ex-président Yahya Jammeh.
Ici à Washington, le directeur du FBI, James Comey, a démenti les accusations du président Trump selon lesquelles son prédécesseur Barack Obama l'aurait placé sur écoute.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, nouveau rebondissement donc dans les discussions sur les arrangements particuliers de l'accord du 31 décembre 2016. Jean-Marc Kaboun, le secrétaire général de l'UDPS, se retire des travaux. L'actuel numéro 1 du parti du défunt Étienne Tshisekedi accuse le camp du président Joseph Kabila de bloquer l'avancement des travaux autour de la désignation du Premier ministre. La majorité présidentielle veut que le rassemblement soumette au choix de M. Kabila 3 noms pour la primature, alors que le rassemblement ne veut proposer qu'un seul nom, celui de Félix Tshisekedi. Pour ne pas cautionner ce qu'il a qualifié de vaste blague, Jean-Marc Kaboun a donc décidé de quitter les discussions de la CENCO et avec lui son parti, l'UDPS. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
J'ai claqué la porte parce que j'ai constaté que nous avancions en reculant. Nous avons passé plus de 3 mois sur une discussion stérile, sur une question déjà résolue par l'accord, le mode de désignation du Premier ministre. L'accord parle d'un Premier ministre qu'on doit présenter au président de la République par le rassemblement. Mais nos amis nous ont portés en bateau durant 3 mois juste pour brouiller la carte et empêcher la mise en œuvre de l'accord. Mais les évêques finalement nous ont fait une formulation simple que le Premier ministre sortira de la consultation entre le nouveau leadership du rassemblement et le chef de l'État. Où est le mal dans cette formulation? Pour qu'aujourd'hui, arrivés dans la salle, nos amis reviennent avec le même blocage de 3 noms des listes. J'ai causé ça comme une vaste blague. On va mettre tout le temps, des mois et des mois, à discuter sur des futilités alors que notre peuple a placé tout son espoir dans l'accord du 31 décembre. Parce qu'il y a des défis majeurs. Au-delà des élections que nous devons organiser à la fin de cette année, il y a aussi cette épineuse question de la situation socio-économique de notre peuple. Nous n'allons plus continuer à blaguer, à se retrouver là-bas entre amis, en train de sourire, alors que notre peuple souffre.
Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'UDPS.
Au Burundi, le porte-parole de la police a annoncé qu'un colonel de police, Charles Ndio Kubwayo, a été retrouvé mort hier à Bujumbura, Claire Morin-Gibourg.
Sur son compte Twitter, le porte-parole de la police a donné quelques détails. Le cadavre du colonel a été retrouvé dans la cour intérieure de l'église de la paroisse Saint-Joseph de Ngagara, un quartier nord de la capitale. Une enquête est en cours, a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions sur les causes et circonstances du décès. Le corps du colonel Ninduyo Kubayo, qui était de garde samedi au centre d'instruction de Mitakataka, situé dans la province de Bubanza, a été retrouvé lundi matin, selon un proche de la famille. Le président d'ITECA, la Ligue des droits de l'homme, Ancher Niyumbamye, s'est dit très préoccupé par la recrudescence des morts violentes. Selon ITECA, 63 cadavres, souvent ligotés, ont déjà été retrouvés depuis le début de l'année. La Ligue des droits de l'homme demande au gouvernement d'accepter une enquête internationale sur ces atrocités.
En Gambie, ouverture hier à Banjul du procès de 9 ex-agents du renseignement. Ils sont accusés du meurtre de Solo Sandeng, un opposant à l'ex-président Yahya Jammeh. Une foule en colère a réclamé la peine de mort à leur encontre. Selon l'AFP, la haute cour de Banjul a renvoyé le procès au 27 mars pour donner plus de temps à l'enquête.
Au Gabon, on se demande si les élèves vont perdre leur année scolaire à cause d'une grève illimitée dans l'éducation nationale. Les autorités s'activaient lundi à dissiper le spectre d'une année blanche après avoir interdit une confédération syndicale d'enseignants grévistes, Anastasie Toudiech.
À l'origine de l'appel à la grève illimitée, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, la CONACYSED, affiche plusieurs revendications. paiement de primes, meilleures conditions de travail pour éviter des classes surchargées et démission du ministre de l'Éducation, Florentin Moussavou. Le ministre de l'Intérieur a interdit d'activité vendredi dernier la CONACYCED, confédération de 7 candidats, pour trouble à l'ordre public et entrave à la liberté de travail. Le gouvernement accuse la coalition syndicale d'être de mèche avec certains acteurs de l'opposition, dont Jean Ping. Malgré cette interdiction, le ministre de l'Éducation a poursuivi hier lundi les négociations avec des syndicats et le ministère a demandé un rapport qui permettra de décider s'il faudra ou pas valider cette année.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le directeur du FBI, James Comey, a démenti les accusations explosives du président Donald Trump, selon lesquelles son prédécesseur, Barack Obama, aurait placé sur écoute son QG de Trump Tower pendant la campagne électorale de 2016. Précision de Jean-Roger Bion.
Déposant hier devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants, James Comey a aussi confirmé que le FBI enquêtait sur la campagne de M. Trump pour déterminer s'il y avait eu collusion criminelle entre des individus liés à son équipe et des intérêts russes pour aider le candidat républicain à l'emporter face à la démocrate Hillary Clinton. Je n'ai eu aucune information qui étaye les tweets de M. Trump et selon lesquels M. Obama l'aurait espionné à son QG à New York. Malgré cette déclaration, le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a souligné que le président n'allait pas retirer ce qu'il a dit sur ses prétendues écoutes. « Nous avons commencé des auditions, elles se poursuivent. De nombreux domaines doivent être encore couverts et beaucoup d'informations discutées », a soutenu M. Spicer. Le directeur du FBI a dit qu'il ne pouvait pas discuter en public pour les besoins de cette enquête confidentielle, les efforts déployés par la Russie pour s'ingérer dans le processus électoral américain. Mais a poursuivi M. Comey, les leaders du Congrès ont été informés à huis clos. Quelques heures auparavant, M. Trump avait ridiculisé toute suggestion de collusion entre sa campagne et la Russie pour accéder à la Maison-Blanche. Pour lui, ce n'est qu'une excuse des démocrates pour expliquer leur défaite le 8 novembre dernier.
Désigné pour siéger à la Cour suprême des États-Unis, le juge Neil Gorsuch a souligné hier devant le Sénat l'importance de l'indépendance de la justice et ce en dépit de l'hostilité manifestée ces derniers temps par Donald Trump à l'encontre des juges qui ont remis en question la validité de ses décrets migratoires. Neil Gorsuch a également dû faire face aux questions des sénateurs démocrates sur le droit à l'avortement et le contrôle des armes.
Abdel Fattah al-Sissi, le président égyptien, va rencontrer Donald Trump en avril ici à Washington pour discuter notamment du conflit israélo-palestinien, dit Lidico.
Dans un communiqué, la partie égyptienne a indiqué que la question palestinienne sera parmi les dossiers abordés. Le président Sissi a par ailleurs souligné l'importance du rôle pivot de l'administration américaine dans la promotion du processus de paix pour trouver une solution au conflit et créer un État palestinien. Dans un récent discours, Donald Trump avait semblé rompre avec plusieurs décennies de diplomatie, notamment sur la solution des deux États vivant côte à côte et dans la paix. Les négociations israélo-palestiniennes sont au point mort depuis avril 2014, mais l'annonce hier de la visite du président égyptien redonne l'espoir d'une éventuelle reprise des pourparlers, d'autant plus que Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, doit lui aussi, selon un responsable palestinien, venir à Washington le mois prochain pour rencontrer le président Trump.
Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a été lui déjà reçu hier à la Maison-Blanche par le président Trump. M. Abadi a dit par la suite qu'il juge que Donald Trump était plus impliqué que son prédécesseur Barack Obama dans la lutte contre le terrorisme. « Je ressens une différence dans la confrontation avec le terrorisme », a dit le dirigeant irakien, qui avait été largement soutenu à son arrivée au pouvoir par l'administration Obama. L'entrevue entre les deux leaders a eu lieu à 2 jours d'une réunion au grand complet ici à Washington des 68 pays de la coalition contre le groupe djihadiste État islamique en Irak et en Syrie.
En France, la candidate de l'extrême droite à la présidentielle, Marine Le Pen, donnée qualifiée au second tour, a été la cible des critiques du centriste Emmanuel Macron et de ses 3 autres concurrents lors d'un débat clé lundi soir à 1 mois du premier tour de la présidentielle.
Selon plusieurs médias et les tweets de compagnies aériennes, Les États-Unis s'apprêtent à interdire à partir de mardi aux passagers embarquant sur des vols en provenance de plusieurs pays du Moyen-Orient d'emporter en cabine des appareils électroniques comme des tablettes ou des ordinateurs portables. La compagnie Saudi Airlines l'a dit sur son compte officiel Twitter. De son côté, la compagnie Royal Jordanian a dit dans un tweet que les téléphones cellulaires et les appareils médicaux nécessaires pendant le vol sont exclus de cette interdiction. Le tweet a été ensuite effacé par la compagnie. Des médias américains ont expliqué que la nouvelle régulation, prise pour des questions de sécurité, devait rester pour l'instant confidentielle.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
En Afrique, les villes explosent mais créent peu de richesses. C'est ce qu'ont estimé des experts réunis dans la capitale malienne dans le cadre d'un séminaire organisé récemment sur ce thème par le Forum de Bamako. Déjà surpeuplées avec environ 500 millions d'habitants, les villes africaines hébergeront 1 milliard de personnes en 2040. Un Africain sur deux sera alors un urbain. L'industrie minière du Botswana est confrontée à d'énormes problèmes et le gouvernement le reconnaît. Le ministre des Ressources minières, Sadike Kebonang, a concédé au Parlement qu'il était difficile de juguler la perte d'emplois dans ce secteur. De 25 000 personnes directement employées en 2014, le nombre se chiffrait à un peu plus de 19 000 l'an dernier, soit une perte de 21%. Le gouvernement botswanais explique la situation par la chute des cours du nickel et du cuivre, qui a notamment contraint à la fermeture de deux importantes mines du pays, BCL et Tati. Le groupe français Canal+, en difficulté en France, se tourne de plus en plus vers l'Afrique. Le continent est devenu, pour le groupe, une terre d'investissement et de revenus importants. Il y emploie plus de 1000 personnes dans une dizaine de filiales. En France, le groupe a subi plus de 650 millions d'euros de pertes et une hémorragie d'abonnés ces deux dernières années. Tendance inverse en Afrique francophone, avec une croissance sur le long terme et 2,8 millions d'abonnés.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suspension à vie pour un arbitre africain.
Oui, l'arbitre ghanéen Joseph Lamptey, déjà sanctionné par la Confédération africaine de football, a été suspendu hier à vie par la FIFA pour avoir manipulé le résultat du match Afrique du Sud-Sénégal. On s'en souvient, c'était le 12 novembre dernier. Les Lions de la Teranga avaient été battus 2-1 lors des qualifications pour le Mondial 2018. On se souvient également que la CAF avait décidé de suspendre Joseph Lamptey pour 3 mois pour avoir accordé un pénalty pour une main qui n'existait pas. Eh bien, après enquête de la FIFA, qui est l'instance suprême du football, l'arbitre a été reconnu coupable de manipulation d'un match pour avoir influencé illégalement le résultat.
Résultat de la 5e journée du championnat du Cameroun.
Le duel à distance se poursuit en tête du championnat camerounais puisque le leader Leading Sport Leke a battu 3-0 le Stade Renard Melong. Quant à son dauphin, le Dragon de Yaoundé, il a battu le Canon lors du derby de Yaoundé. 2-0 au classement. Leading Sport Leke, 13 points mais 5 matchs joués. Le Dragon de Yaoundé est deuxième à 10 points mais ne compte que 4 matchs à son actif.
Nouveau président pour la Fédération algérienne de football.
L'homme d'affaires Kheredine Zetchi a été élu à la tête de la Fédération algérienne de football. Il succède à l'homme fort du football algérien Mohamed Rouaroua, qui n'a pas souhaité briguer un nouveau mandat. Zetchi, candidat unique, est le président du Paradou Athletic Club, un club de deuxième division. Il a été élu avec 64 voix sur 130 votants lors d'une assemblée générale de la Fédération tenue à huis clos à Alger. Le nouveau président de la FAF assure que la résurrection de la sélection nationale constitue l'une de ses priorités.
Tennis, Roger Federer remonte au classement ATP.
Roger Federer a gagné 4 places pour remonter au 6e rang du classement mondial au lendemain de sa victoire dans le Masters Indian Wells, ce qui lui permet de repasser devant son grand rival historique Rafael Nadal, qui est désormais 7e. Finaliste à Indian Wells, Stan Wawrinka conserve sa 3e place derrière Andy Murray, toujours numéro 1 mondial, et Novak Djokovic. Allez Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Atlanta et Charlotte 90-105, Philadelphia et Orlando 109-112, Utah et Indiana 100-107, Washington et Boston 102-110, Denver et Houston 124-125, Golden State Warriors et Oklahoma City 111-95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, la commission constitutionnelle entame la phase d'enrichissement de l'avant-projet de nouvelle constitution avec la participation des forces vives de la nation. Des discussions sont menées à travers le pays sur un document dont de nombreux points suscitent encore des débats. De Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon.
Les leaders de partis politiques et d'OSC participent activement à l'entreprise d'enrichissement de l'avant-projet de nouvelle constitution pour le Burkina Faso. Le souci de l'équilibre des pouvoirs, la garantie de l'indépendance de la justice, ainsi que la stabilité et la transparence sont le leitmotiv exposé à travers les 15 titres de ce document de 50 pages. Les points saillants des débats restent les pouvoirs du président du Faso réduits dans le régime semi-présidentiel proposé, la situation des langues nationales, des personnes en situation de handicap, l'abrogation de la peine de mort et surtout la justice dans l'absence de redevabilité des juges, inquiète Edouard Diapa, un des participants.
Tout est focalisé sur l'indépendance de la justice. Et c'est notre justice qui ne résout pas notre problème. Donc pour moi, dans un pays, un magistrat qui doit se faire nommer par un autre magistrat, entre eux, sans passer par le ministre de la Justice, sans passer par qui que ce soit, et personne n'a le droit de rentrer pour savoir ce qu'il y a. C'est un catastrophe.
D'autres questions fondamentales restent encore floues dans le document. S'alarme Serge Compaoré, président du Conseil régional de la jeunesse du centre.
Si sur le plan social, on a parlé tantôt du mariage, est-ce que l'homosexualité a été prise en compte? Il me paraît un peu flou.
Ces aspirations devraient s'arrimer sur un réel équilibre des différents pouvoirs, laisse entendre le député Marie-Laurence Marchal-Iliboudo de la majorité.
Dans le souci d'équilibrer toutes les forces, il y a certains points qu'il faille relier, tels que les pouvoirs que soit octroyé le judiciaire. Nous voulons vraiment une équité, une justice pour tout le monde. Je pense que le régime semi-présidentiel cible à notre contexte. Parce que pour aller à un régime parlementaire, il faut des acquis. Et un régime présidentiel octroie trop de prérogatives au président. Nous avons vu les dérives que ça nous a amenés. Donc ce régime semi-présidentiel permettra qu'il n'y ait plus d'hommes forts dans ce pays, qu'il y ait des institutions fortes.
Dans la société civile, par contre, les leaders s'interrogent sur la pertinence de ces échanges dans la situation actuelle du pays. L'actuelle constitution ayant déjà été retoquée sous la transition. Marcel Tankwano, le président du M21.
Le véritable problème qui divisait les Burkinabés, c'était autour de l'article 37 et du Sénat. Pendant la transition, ces questions ont été levées puisque le verrouillage a été total au niveau de ces deux points. Bon, pour moi, les autres points, ce n'est que des ajustements. Et pendant qu'on parle de la Constitution, les produits de grande consommation flambent. Quand tu prends le Nord aujourd'hui, où chaque jour il y a mort d'hommes, des écoles sont attaquées, près de 400 écoles fermées. À mon avis, je pense que la Constitution, on peut laisser là où elle est.
Le but de sa conférence rappelle le maître Alidou Ouédraogo, président de la Commission constitutionnelle, est de parvenir à un document qui prenne le plus possible en compte les aspirations et attentes du peuple burkinabé insurgé. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Mali, le gouvernement a annoncé la tenue de la conférence d'entente nationale du 27 mars au 2 avril 2017. La CEMA et la plateforme ne sont pas d'accord avec la tenue de cette conférence, dont les deux groupes dénoncent dans une déclaration la mauvaise préparation. À Bamako, plusieurs Maliens sont de leur côté sceptiques quant à sa tenue. Précision de notre correspondant Kassim Traoré.
C'est la semaine passée que le gouvernement a suivi la restitution des travaux de la commission préparatoire de la conférence d'entente nationale. À l'issue de sa délibération, le Conseil des ministres a décidé de la tenue de la conférence d'entente nationale du 27 mars au 2 avril à Bamako. Mahamadou Kan, journaliste.
L'État malien, en se précipitant pour organiser cette rencontre, bon, c'est clair que nos dirigeants ont leur agenda, mais le peuple a aussi son agenda. Compte tenu du contexte actuel, les personnels sanitaires qui sont en grève depuis plus de 10 jours, partie de l'enseignement éléments fondamentaux en grève. Nous sommes minés par cette crise-là. Moi, je pense que le pays n'a pas besoin de ça maintenant. Est-ce que la réconciliation est en marche pour pouvoir organiser vraiment cette conférence d'entente nationale?
Il ressort des rapports de la commission préparatoire que de larges concertations ont été menées avec l'adhésion des forces vives de la nation pour la tenue de la conférence d'entente nationale qui sera organisée autour de trois thèmes: la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Aboubakar Nyan, président de la jeune chambre économique de Kaye.
Il y a beaucoup de choses à préalable qu'il faut faire avant de faire cette conférence parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent au niveau même du pays. Je crois qu'il devrait y avoir d'abord d'autres concertations et que nous d'abord expliquer davantage ces accords et que nous puissions comprendre réellement tous les contours avant de faire cette conférence d'entente nationale.
Conformément à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, la conférence d'entente nationale permettra d'approfondir les débats sur les causes profondes du conflit et d'élaborer une charte pour la paix, l'unité nationale et la réconciliation sur une base consensuelle. Kousetera, comptable.
Bon, pour moi, pour faire cette conférence est nécessaire, mais est-ce que c'est le moment et encore la date fixée? Est-ce que c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir bien écouter chacun? Est-ce qu'on a pu mettre tout cela ensemble? C'est ça mon inquiétude. Et aussi, pour pouvoir faire ça, comme je l'ai si bien dit, ça va passer forcément par bien connaître les causes pour pouvoir échanger. Donc, à mon avis, c'est nécessaire, mais la date fixée, je trouve qu'on va essayer de faire quelque chose seulement qu'on veut le faire. Sinon, je ne pense pas que ça peut donner le résultat qu'on veut si on tient réellement à l'affaire à cette date.
Dans une déclaration, la CEMA et la plateforme ne se reconnaissent pas dans l'organisation de la conférence d'entente nationale. Pour eux, les concertations régionales ont été menées partout sauf dans la région de Kidal. Ils ont aussi mis l'accent sur la façon unilatérale dont la conférence d'entente nationale a été préparée. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, l'inculpation et la détention à la maison d'arrêt de Conakry d'Aboubakar Toumba Diakité, ex-commandant de la garde présidentielle de Moussa Dadis Camara, sont diversement appréciés. Si les victimes saluent le retour d'un des présumés acteurs du massacre du 28 septembre 2009, elles souhaitent, tout comme la défense du béret rouge, une instruction dénuée de toute discrimination. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, nous en dit plus.
Aboubakar Toumba Diakité fait couler beaucoup d'encre et salive depuis son extradition de Dakar. La justice guinéenne vient de l'inculper pour assassinat, complicité de viol, entre autres. Dans la capitale, son retour sonne comme un espoir pour certains, mais son avocat parle d'une erreur. Maître Yomba Kourouma.
L'erreur d'abord du ministère public a consisté à l'inculper, à le considérer comme un suspect dans cette affaire. Il devrait être cité en tant que témoin parce que Toumba Diakité, bien qu'étant à l'époque le commandant de la garde présidentielle, ne l'était plus que par le titre. La fonction lui était arrachée.
Plus de 10 personnalités militaires et civiles sont inculpées dans cette affaire. Certaines comme le gouverneur de la ville de Conakry ou encore le chargé de la lutte contre les crimes organisés sont libres de tout mouvement. Une situation que dénonce Maître Yomba Kourouma, c'est inadmissible, fait-il remarquer.
Le séjour à la maison d'arrêt de Boubacar Toumba Diakité n'est ni plus ni moins qu'une discrimination parce que inculpé au même titre que 13 autres de ses collègues, il est le seul à avoir été admis à la maison d'arrêt. Les autres occupent de hautes fonctions dans les sphères de l'administration publique, si ce n'est d'ailleurs à la présidence de la République.
Le 28 septembre 2009, une manifestation des opposants au chef de la junte est réprimée dans le sang par les bérets rouges. Plus de 150 morts et plusieurs femmes violées. Pour les victimes, le retour de Toumba Diakité semble insuffisant. Il faut la présence de tous les acteurs, demande-t-elle. Asmaou Diallo, présidente de l'association des victimes.
Ceux qui sont au commandant, ils ne sont pas inquiétés. Alors lui, on le met en prison. Il faut absolument qu'il soit protégé. Parce que pour qu'on ait toutes les vérités, tous ceux qui étaient là, qu'ils soient tous présents. Il ne faudrait pas que Toumba soit là en prison et qu'on le laisse et qu'il y arrive quelque chose. Non, je pense que le gouvernement guinéen peut avoir une idée plus mûre que ça.
Aboubakar Toumba Diakité aurait confié à son avocat que la liste des personnes inculpées est limitative. Il promet d'y ajouter d'autres noms, mais demande à renforcer sa sécurité. Ses avocats, eux, proposent de le faire séjourner dans une ambassade occidentale. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
À Djibouti, interpellation de plusieurs militants de l'opposition. Certains ont été gardés plus de 48 heures sans notification de ce qui leur était reproché. Idriss Fall, adjoint d'Aher Ahmed Farah, président du MRD, Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement, principal parti d'opposition de Djibouti.
C'est vrai que le MRD est frappé d'une vague d'arrestations par le régime, et cela depuis le 13 mars dernier. Pas moins de 17 membres et sympathisants du parti ont été arrêtés. Au moment où je vous parle, le secrétaire général du parti, M. Jama Hussein Roblé, est entre les mains des gendarmes de la section de recherche et de documentation, qui est l'organe de répression politique de la gendarmerie. Les 16 autres personnes n'ont eu accès ni à leur avocat, et ils n'ont même pas pu récupérer eux-mêmes le repas apporté par leur famille. Les autres personnes ont été relâchées après plusieurs jours de garde à vue, au-delà donc de la durée légale de la garde à vue, qui est fixée à 48 heures. Aucun motif n'a été signifié au parti, mais d'après les témoignages que nous avons recueillis auprès des personnes qui ont été relâchées, la question qui revient sur le lèvre des gendarmes est de savoir d'où vient la modique somme d'environ 5 000 $ que les militants et sympathisants du parti ont collecté entre eux et prêté sans intérêt sur le principe de la tontine traditionnelle à des Djiboutiens dans le besoin.
Cet argent, il vient d'où alors ?
Cet argent a été collecté par les militants et sympathisants du parti. C'est donc le produit d'une cotisation des membres et sympathisants du parti. Le parti a 3 députés, il a des cadres. Ces gens-là ont, pendant plusieurs mois, cotisé, collecté cet argent entre eux, chacun selon ses moyens, ce qui a permis, au bout de plusieurs mois, de distribuer dans un premier temps quelques 510 000 francs Djibouti à 17 personnes dans le besoin, et puis tout récemment, au mois de mars, 440 000 francs Djibouti à 14 personnes dans le besoin. C'est une modique somme collectée en toute transparence et distribuée en toute transparence, qui a fait l'objet d'une médiatisation sur les réseaux sociaux. Il y a eu des vidéos, il y a eu des photos, il y a eu un texte. Le MRD ne cache rien, il ne reçoit d'argent de nulle part.
Apparemment, on nous parle d'une plainte qu'aurait déposée la Banque centrale de Djibouti.
C'est ce qui a été dit lors de l'interrogatoire. Lorsque certains d'entre eux ont demandé « Mais sur quelle base vous nous arrêtez, vous nous interrogez ?» Les gendarmes leur ont répondu qu'ils agissaient suite à une plainte de la Banque centrale de Djibouti. Et ce qui est curieux, c'est que cette plainte ne semble pas être passée par le parquet de la République. Sauf en cas de flagrant délit auprès du parquet, que la plainte est déposée. Or là, il n'y avait pas de flagrant délit. Les gendarmes eux-mêmes reconnaissent qu'il y a une plainte. La plainte aurait donc dû être déposée auprès du parquet. Visiblement, ce n'est pas le cas, puisque le parquet n'a fait aucune communication autour de cette affaire.
Daher Ahmed Farah, président du MRD, le Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement, principal parti d'opposition de Djibouti.
Salut à tous, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire que le magazine au féminin a fini son temps et qu'il passe le relais à une nouvelle édition toute fraîche, Le Monde au féminin, dorénavant diffusé le mardi et le samedi à 19h. Ne manquez pas ce programme interactif, dynamique et plus riche en rubriques. Le Monde au féminin aborde aussi des questions qui préoccupent la jeunesse. Alors soyez tous au rendez-vous le mardi et le samedi à 19h sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.